France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Louise Cognard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le deuxième épisode de notre série sur le soft power états-unien façon Donald Trump. Quelle stratégie, quelle idéologie derrière ces attaques contre ce qui était censé faire l'attractivité des États-Unis et une part de sa puissance. Nous avons parlé hier des médias américains à destination de l'étranger. Voice of America, Radio Free Europe qui se voit couper les vivres. Aujourd'hui, les universités dans le viseur du président américain et de son vice-président J.D. Vance.
Je pense qu'une grande partie de ce que nous voulons faire dans ce pays dépend, je crois, fondamentalement d'un ensemble d'institutions très hostiles, en particulier les universités, qui contrôlent le savoir dans notre société, qui contrôlent ce que nous disons être vrai et ce que nous disons être faux. On doit s'attaquer honnêtement et agressivement aux universités de ce pays.
Le président a été très clair avec Harvard. Si vous suivez la loi fédérale, si vous n'enfreignez pas le règlement qui a été adopté par le Congrès et qui stipule qu'aucun étudiant ne peut être discriminé sur la base de la race, alors vous recevrez les fonds fédéraux. Malheureusement, Harvard n'a pas pris au sérieux les demandes du président ou de son administration. Et nous ne devrions certainement pas financer un endroit où règne un antisémitisme aussi grave.
If the US government goes to war,
si le gouvernement américain entre en guerre contre nos grandes universités, cela signifie une forte réduction du progrès scientifique qui a permis aux États-Unis d'être enviés par le monde entier et de devancer l'Europe et le Japon.
Tout n'est donc qu'une question de puissance. Dans les discours prononcés par quelques présidents d'universités états-uniennes, ici l'ancien président d'Harvard, Larry Summers, revient cet argument d'universités orgueilleuses de tenir leur rang dans le monde, plus prosaïquement dans le classement de Shanghai. C'est la défense en tout cas trouvée par les représentants du monde universitaire face aux attaques de Donald Trump. Alors certes, le savoir ne préserve pas de la sottise, comme l'aspirine préserve du mal de tête. Il se peut même, comme disait le philosophe Lucien Gerfagnon, qu'orner du baroque des connaissances, la sottise grandit en majesté et n'en soit que plus malfaisante. Les responsables américains qui remettent en cause l'université aujourd'hui ont d'ailleurs tous fait de longues études. Mais bien qu'elles soient privées aux États-Unis et sur un mode de financement bien différent du nôtre, les universités restent le lieu de la liberté académique, de l'exigence, de la nuance, du débat contradictoire, une école de la démocratie en même temps que son rempart. Si on parle beaucoup d'Harvard, accusé comme 60 autres d'avoir laisser prospérer l'antisémitisme lors des manifestations de soutien à Gaza. C'est en fait tout le monde universitaire qui fait l'objet d'une offensive. Baisse des financements, liste de mots interdits pour les projets de recherche, nombre de bourses de doctorat divisé par deux. De quelle nature est cette attaque? S'agit-il d'un combat idéologique? Et puisque cette émission s'inscrit dans une série sur le soft power américain, quel risque et quel coût pour la compétitivité et pour l'attrait des États-Unis? Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des États-Unis, président de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et à ce titre, vous avez d'ailleurs mis en place aussi un programme d'accueil de scientifiques états-uniens dont le travail ne sera plus financé suite aux mesures et aux décrets du gouvernement de Donald Trump. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Combien de candidatures vous avez reçues à ce jour?
On avance très lentement et l'école, l'EHESS n'est pas seul dans ce programme. C'est un programme national. On espère pouvoir attirer des chercheurs et des chercheuses en leur donnant les moyens de venir en France. On n'est pas du tout naïf. Je crois qu'il ne s'agit pas d'attirer des stars ou des grands noms aux États-Unis qui ont des situations très confortables et des salaires qui vont avec. Mais on pense surtout aux jeunes qui sont nés aux États-Unis, mais qui viennent d'ailleurs aussi, qui sont allés faire soit des thèses aux États-Unis, soit des post-docs, et dans certaines disciplines, notamment les sciences dures, le post-doc états-unien est un passage obligé. Il faut aller faire un post-doc à Princeton ou à Yale pour espérer obtenir un poste de retour en France. Donc le HESS avec le ministère de l'enseignement supérieur et toutes les universités françaises et européennes ont le même espoir d'attirer ces jeunes et de leur dire qu'en France, on peut faire la recherche qu'on veut, sans mots interdits, sans limitation d'une quelconque manière. Vous pouvez avoir l'orientation sexuelle que vous voulez, vous pouvez avoir les rêves scientifiques que vous voulez. Dans les universités, dans les campus européens, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et je pense que ce message qui semblait évident il y a quelques mois encore aux États-Unis devient très compliqué.
La liberté académique, celle que vous proposez en France et qui de plus en plus devient un gros mot aux États-Unis. La revue Nature a mené un sondage fin mars dont les répondants disent pour les trois quarts qu'ils envisagent de quitter les États-Unis. C'est 1200 scientifiques en tout. En ce qui concerne vraiment ce sondage-là, il faut extrapoler ensuite pour imaginer combien de ces enseignants états-uniens aujourd'hui envisagent de quitter leur pays. J'imagine que vous n'avez, Romain Huret, pas reçu encore de candidature de professeur d'Harvard spécifiquement.
Non, pas encore, mais comme je le disais, on est dans la crème de la crème. C'est l'université la plus prestigieuse, la plus riche du monde. Et donc, pour l'instant, cette université a décidé de résister. Donc, je pense qu'ils vont rester sur place pour résister à l'offensive brutale de Donald Trump. Et c'est plutôt un signe intéressant, puisque en raison de leur richesse, en raison de leur positionnement symbolique dans l'espace mondial, ils montrent que la liberté académique vaut d'éventuels sacrifices financiers et ils sont là pour défendre à travers Harvard. Je pense qu'ils défendent l'écosystème de la recherche scientifique dans le monde.
La direction de Harvard a porté plainte hier devant un tribunal du Massachusetts contre, je cite, les efforts déployés par le gouvernement pour utiliser le gel de subventions fédérales comme un moyen de prendre le contrôle des décisions académiques à Harvard. Alors avant d'évoquer les accusations d'antisémitisme portées par Donald Trump à l'encontre d'Harvard, mais aussi d'une soixantaine d'autres universités, jusqu'où peut aller ce bras de fer? Certes, les subventions fédérales pour Harvard, ça représente pas grand-chose. 11% de son budget, c'est quand même pas mal. Mais est-ce qu'elle peut faire sans longtemps? Jusqu'où peut-elle tenir tête?
Alors, elle peut tenir tête aussi longtemps que l'autre source fondamentale de financement ne sera pas touchée par Donald Trump. Et là, il a un bouton nucléaire sur lequel il pourrait appuyer. Et cette source de financement, ce sont les donations d'anciens élèves qui sont très courantes aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais aux États-Unis, vous donnez de l'argent une fois que vous avez réussi dans votre carrière, vous donnez de l'argent à votre université, à celle qui vous a formé, celle qui vous a permis de réussir. Donc les anciens élèves d'Harvard donnent des sommes considérables. Le rôle du président d'Harvard, comme de tous les présidents et présidentes d'université, c'est d'aller chercher des fonds. Ce n'est pas mon rôle comme président de l'HESS, je n'ai pas à aller voir les anciens élèves à organiser des galas et à leur demander de faire des chèques de centaines de milliers d'euros. Le président d'Harvard, c'est son rôle principal. Il doit aller chercher des fonds et donc chaque année, il lève des millions et des millions de dollars qui permettent à l'université d'être assis sur un tas d'or. Ils ont un fonds,
milliards de dollars, le fonds de dotation. C'est le plus élevé au monde.
C'est le plus élevé au monde. Donc, ils peuvent tenir assez longtemps. Ça leur permet de financer les coûts de fonctionnement, les salaires des enseignants et la recherche sur le campus. Donald Trump peut limiter ça. Il peut le limiter d'une manière très simple en mettant un terme à la défiscalisation de ses dons. Défiscalisation partielle, elle n'est pas totale, mais vous pouvez défiscaliser donc les grandes fortunes du pays, comme on connaît par exemple le fondateur de Facebook, Zuckerberg, est un ancien élève, il donne de l'argent à Harvard et il en défiscalise une partie. Et donc cette incitation, en quelque sorte, à donner, pourrait être limitée par Trump, et il l'a dit à plusieurs reprises. Et il menace sans cesse, régulièrement, à la radio ailleurs, les universités, en disant « J'ai encore un levier, je peux demander au Congrès de mettre un terme à cette possibilité de ne plus défiscaliser les dons. S'il le fait, il y aura là sans doute une plus grande difficulté pour les universités qui perdront leur principale source de financement. Et dans ce cas-là, il faudra faire des choix pour elles en termes de rémunération des enseignants, de fonctionnement de l'université. Mais il est certain que c'est tout l'écosystème universitaire qui pourrait être limité par cette décision de Donald Trump. Pour l'instant, il ne le fait pas, mais on sait que Ce président est assez imprévisible et donc pourrait décider demain matin ou la semaine prochaine de le faire.
En attendant, il donne des consignes et en disant si ces consignes ne sont pas respectées, j'appuierai justement sur, comme vous dites Romain Huret, ce bouton nucléaire. Le gouvernement a par exemple envoyé à la direction d'Harvard toute une liste de demandes portant notamment sur les personnes qui peuvent y être embauchées ou les critères de promotion des enseignants. Un document, une lettre qui exige aussi que ces réformes soient supervisées par des fonctionnaires nommés par le gouvernement et la mise en place, alors là on dirait une nouvelle de Marcel Aimé, d'une commission sur la diversité des points de vue. Qu'est-ce que ça peut être une commission sur la diversité des points de vue dans une université comme Harvard?
On a entendu Gilles Evans au début de l'émission, hein, qui pense que les universités sont le principal ennemi des conservateurs et le principal ennemi du pays. Ce sont des mots d'une très grande force et d'une très grande violence. Et on comprend parfaitement ce que... pour Gilles Evans, et la diversité des points de vue, c'est-à-dire que les conservateurs pensent que les universités sont des lieux progressistes, des lieux qui ont imposé ce qu'on a appelé en France une pensée unique, hein, en refusant précisément la diversité des points de vue, et donc on véhicule une vision de la recherche, de la science, qui serait unilatérale, hein, et qui ne prendrait pas en compte la diversité des points de vue. Une des disciplines, hein, qui est très souvent mise en cause par les conservateurs, par Donald Trump et Gilles Evans, c'est l'histoire et l'histoire des États-Unis. Et les conservateurs détestent la construction de l'histoire sur les campus depuis les années 60, pour aller vite. Et ils ont l'impression que cette histoire n'est pas une belle histoire, ce n'est pas une histoire patriotique qui mettra en avant la grandeur de la nation états-unienne, mais c'est une histoire très critique. Une histoire qui rappelle, hein, les avancées, les progrès du pays, mais aussi qui ne fait pas l'impasse sur les heures sombres du pays, l'esclavage, la ségrégation, la mise dans des camps de Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref, une histoire qui tente de mesurer calmement les méfaits et les apports du pays, qui cherche à être critique dans ses démarches. Les conservateurs détestent cette approche-là. Trump le dit souvent, il veut une belle histoire, une histoire héroïque, une histoire de conquête, une histoire d'entrepreneur, une histoire de génie, et qui est principalement une histoire d'homme blanc qui aurait construit une nation exceptionnelle, inspirée par Dieu, et qui aurait permis à ce pays de devenir l'un des plus puissants du monde. Donc voilà ce qu'est la diversité des points de vue, c'est de revenir à, de faire entendre aussi cette belle histoire et de faire en sorte que les jeunes générations n'aient pas en tête qu'une histoire négative, une histoire hostile aux États-Unis, mais au contraire, soient nourries, soient bercées par ce beau récit que Trump et les conservateurs veulent imposer au pays.
D'où la demande faite encore une fois auprès de la direction d'Harvard de réduire le pouvoir des professeurs plus engagés dans l'activisme que dans la recherche. Ce sont les mots employés, de donner à l'inverse plus de pouvoir aux professeurs engagés dans les changements indiqués dans la présente lettre. C'est une lettre qui appelle aussi à des audits complets du contenu intellectuel des cours. Je pense que personne ne nie qu'il y a aux États-Unis un vrai débat intellectuel, que les professeurs ne sont pas d'accord entre eux, y compris sur la guerre à Gaza. À Columbia, par exemple, les enseignants de la faculté de médecine ne sont pas d'accord avec ceux des sciences humaines et sociales. Il y a eu des débats réellement et Columbia est pourtant visée, elle aussi a été visée par ces accusations d'antisémitisme, de ne pas avoir protégé les étudiants de confession juive par le gouvernement de Donald Trump. Pourquoi Columbia, d'après vous, Romain Huret, a cédé, a accepté par exemple de voir son département d'études proche-orientales et africaines mis sous tutelle pour au moins 5 ans? Pourquoi et surtout qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un département d'études est mis sous tutelle?
Alors, sur les raisons du choix de Columbia, il faut revenir à l'an dernier où il y a eu... Columbia était sans doute l'université qui a été... le plus touché par la mobilisation des étudiants et des étudiantes, hein,
contre la guerre à Gaza.
Contre la guerre à Gaza et qui ont critiqué à la fois le positionnement de l'université, mais plus généralement le positionnement du Parti démocrate aux États-Unis et celui du pays et de la politique étrangère du pays, hein, qui défend depuis très longtemps principalement Israël, hein, et qui est beaucoup moins sensible à la situation palestinienne. Ces étudiants ont demandé de manière parfois un peu brutale, comme les étudiants font, comme ils l'ont toujours fait quand ils se mobilisent. Et cela a conduit, il ne faut pas l'oublier, à la démission de présidentes d'université, qui ont connu des moments extrêmement douloureux au Congrès, où elles ont été... Il y a eu des auditions, hein, parfaitement, où elles ont été attaquées par des élus conservatrices, qui les ont accusées, par exemple, d'avoir laissé prononcer le mot d'intifada, ce qui peut faire sourire vu de France, puisque c'est un mot qui fait partie de notre langage et qui fait partie aussi du langage courant pour décrire ce qui se joue à Gaza et ce qui se joue dans ce conflit israélo-palestinien. Mais même ce terme-là était vu comme un terme antisémite et que les étudiants aient osé prononcer ou que les professeurs aient osé prononcer cela était vu comme la marque d'une dérive des universités. C'est précédent, faut pas l'oublier, c'est important pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Rappeler un des principes constitutionnels le plus important aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Elle est sacrée aux États-Unis, un pays où vous pouvez défiler habillé en nazi si vous le souhaitez, personne ne peut vous empêcher de le faire aujourd'hui aux États-Unis.
Ça pose un problème moral, mais pas juridique.
Ça pose un problème moral, mais vous avez tout à fait en France la loi vous l'interdit. Donc, il y a en France, on a une conception de la liberté d'expression qui est plus restrictive. Il y a sur l'Holocauste ou sur l'esclavage, il y a des lois qui ont limité le travail des historiens, qui ont encadré cette liberté d'expression. Vous ne pouvez pas nier publiquement l'Holocauste aujourd'hui en France. Vous êtes susceptible d'être poursuivi en justice, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, ces présidents avaient rappelé que les universités sont des lieux qui sont régis par la loi du pays. La liberté d'expression est totale et donc elle s'était abritée et de manière tout à fait justifiée derrière cette liberté d'expression. Là, on voit qu'il y a une envie d'encadrer, et c'est assez paradoxal pour quelqu'un comme J.D. Vance qui a fait la leçon aux Européens sur la liberté d'expression, il y a une envie finalement d'encadrer cette liberté d'expression en disant il faut que les universités limitent les propos qui sont tenus, limitent les travaux qui sont faits sur la Palestine et ailleurs. Et donc, on voit que des universités qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens qu'Harvard, qui n'ont pas la même puissance de frappe, finissent par se dire on doit peut-être prendre des mesures pour éviter que nos subventions fédérales, même si vous l'avez rappelé, elles sont relativement faibles, baissent. Et surtout, toujours en tête, ces présidents craignent la baisse des dotations et ils craignent l'effet extérieur en termes de relations publiques, qu'on donne l'impression que Columbia ou d'autres universités sont des lieux antisémites et des lieux qui ont un usage tout à fait discutable de la liberté d'expression.
Ce qui serait beaucoup plus problématique, c'est si des étudiants de confession juive se sont réellement fait chahuter, ont été discriminés pour leur conviction religieuse. 7 d'entre eux ont porté plainte récemment, on verra bien ce que dit l'enquête. En tout cas, les universités disent aujourd'hui que cette guerre à Gaza, les manifestations, les blocages des campus n'ont pas été le déclencheur de la colère de Donald Trump, mais en fait un prétexte, puisque cette conviction qu'a Donald Trump, mais aussi J.D. Vance ne date pas de la guerre à Gaza. Le vice-président dénonçait déjà l'université dans ce discours à la National Conservatism Conference en 2021.
Why, ladies and gentlemen, are school children learning from school teachers that America is a...
Pourquoi, mesdames et messieurs, les enfants apprennent-ils de leurs professeurs que l'Amérique est un pays fondamentalement raciste et mauvais? Parce que ces mêmes enseignants l'ont appris d'un professeur progressiste d'université il y a 10 ou 15 ans.
That is the fundamental problem of American truth and knowledge today.
C'est le problème fondamental de la vérité et du savoir américain aujourd'hui. Nous avons créé un système où, pour travailler dans l'économie moderne et vivre dans la classe moyenne, il faut aller à l'université. C'est ce que nos élites disent à nos jeunes. Et pourtant, dans ces universités, on leur dit que travailler de ses mains est méprisé. On leur dit que l'Amérique est un pays fondamentalement raciste et méchant. On enseigne aux enfants qui entrent dans ce système universitaire que ce pays construit par nos pères et nos grands-pères est un endroit mauvais et terrible. Mesdames et messieurs, nous livrons nos enfants à nos ennemis et il est temps que nous arrêtions de le faire.
J.D. Vance en 2021, Romain Huret, dans un article pour la revue Esprit, vous parlez d'anti-intellectualisme théorisé déjà dans les années 60, donc au lendemain du macartisme, par l'historien Richard Hofstadter. À quelle version d'anti-intellectualisme est-ce qu'on a ici affaire?
C'est la même version, c'est la même histoire, une histoire très longue de l'anti-intellectualisme aux États-Unis, où depuis la création des universités, il y a eu des mouvements, souvent d'origine religieuse et politique, qui ont contesté le pouvoir des universitaires, le pouvoir de la raison, et ils ont mis en avant, à l'inverse, l'importance de la famille comme un lieu d'éducation, et ils ont mis en avant l'importance de l'émotion, l'importance des savoirs empiriques par opposition aux savoirs très rationnels dans les universités. Et ce conflit a parcouru toute l'histoire de la République aux États-Unis. Régulièrement, on a eu des oppositions très fortes entre, d'un côté, la famille, qui est vue comme le lieu de l'apprentissage, et de l'autre côté, les universités, qui s'accaparent à un moment, c'est ce que dit J.D. Vance, hein, on donne nos enfants en pâture à nos ennemis, à des gens qui vont leur dire « votre pays est mauvais, la guerre du Vietnam est une mauvaise chose, l'État fédéral est une bonne chose ». Bref, vous, les familles, à ce moment, se voient dépossédées de ce savoir-là. Et on a, chez Trump ou chez J.D. Vance, hein, on voit très bien un rejeu hein, de cette vieille tradition anti-intellectuelle. Pour prendre un exemple très concret, lorsque Donald Trump critique les savoirs sur le réchauffement climatique, il utilise souvent des arguments comme vous voyez bien, il fait chaud, c'est l'été, c'est la preuve que les universitaires, les scientifiques racontent n'importe quoi à Harvard ou à MIT. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un discours très célèbre où il a une boule de neige dans la main et il dit bah, vous voyez, il neige encore, et donc s'il neige encore, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et là, on est dans l'argument empirique, hein, la chaleur, le froid, je le sens, je vois bien, il pleut encore, il fait froid, il y a encore des saisons. Et donc, toute cette construction, ce savoir rationnel est dangereux et malsain. Et finalement, et c'est un vieil argument contre les universitaires, ils inventent des problèmes. Pour rester en place.
L'intello, on dit la tête d'œuf aussi.
Ouais, la tête d'œuf, tout à fait.
Eggheads, voilà, qui serait l'inverse dangereux, écrivez-vous, de l'ingéniosité pratique, du patriotisme fervent et du puritanisme moral. Et ce, depuis les années 60, en fait, depuis la guerre du Vietnam, où les universités ont des repères de la lutte contre, à l'époque, la politique états-unienne menée au Vietnam. Mais au sein des Républicains, est-ce que Donald Trump a convaincu tout le monde, y compris les anciens étudiants de ces université, est-ce qu'il a réussi à retourner des élus ou des proches qui eux-mêmes sont diplômés de ces grandes écoles et qui finalement ont retourné leur veste en disant mais bien sûr, tout ce qu'on a appris c'était n'importe quoi et il faut absolument revenir en arrière.
Ça a été assez facile hein, puisque beaucoup partagent le point de vue de J.D. Vance qui est lui-même qui est ce qu'on appelle un transfuge de classe hein, et qui a détesté ses années à l'université, à Yale, qui a détesté ces élites progressistes, hein, il en a fait son fond de commerce, c'est comme ça qu'il...
Pourtant, il a étudié Saint-Augustin, on l'a entendu dans la série de la semaine dernière, ça a l'air de le passionner.
Il a détesté finalement le campus, cette vision progressiste du monde, ce savoir qui est enseigné, et le combat contre les universités, vous l'avez rappelé, hein, s'est accéléré dans les années 60, où à la fois la mobilisation des étudiants contre la guerre du Vietnam... est vu comme une trahison, au sens le plus fort du terme, hein, par les élites conservatrices. Les étudiants ne soutiennent pas les soldats qui sont engagés aux États-Unis. Et de la même manière, on voit apparaître des savoirs sur les femmes, sur les minorités sexuelles, sur les Afro-Américains, sur la discrimination, sur les traumatismes historiques du pays. Et tous ces savoirs-là sont aujourd'hui interdits de recherche par l'État fédéral. Vous l'avez dit, il y a des mots interdits, il y a 200 mots qui sont interdits de financement par l'État fédéral. Des mots comme « femme », des mots comme « genre », des mots comme « discrimination », un mot comme « historiquement », que je trouve le plus parlant. C'est-à-dire que vous ne devez pas, dans vos projets de recherche, évoquer des choses qui se sont historiquement passées comme ça. C'est-à-dire que le recours à l'histoire comme un moyen d'excuser ou de légitimer des programmes qui sont faits pour des minorités... est vu comme contraire à cette histoire héroïque et n'aurait pour but que de salir l'histoire des États-Unis. Donc concrètement, ça veut dire que si vous voulez, comme chercheur ou chercheuse, avoir des financements avec un projet sur les femmes, sur la discrimination, sur les inégalités ou sur les traumatismes historiques, vous ne pouvez plus taper au robinet de l'État fédéral. C'est en pratique. Et ça veut dire aussi que toutes les agences fédérales dès qu'il y a de l'argent du contribuable, vous ne pouvez plus discuter de ces éléments-là ou en parler. Cela a été effacé des sites internet de la NASA ou d'autres ministères fédéraux. Concrètement, si on faisait une chose comme ça, en France, ça veut dire que France Culture ne pourrait plus financer des recherches ou des émissions portant sur les femmes, les discriminations, les inégalités, les traumatismes historiques.
Ou alors etc. On mettrait un petit papier à l'entrée du studio en disant mot interdit historiquement. Voilà. Pareil. Merci de ne pas employer cet adverbe.
Je vais faire attention.
Alors donc on entend bien, vous parlez du robinet de l'État fédéral qui se coupe à tout bout de champ pour les universités, y compris pour les visas pour les étudiants étrangers. Est-ce que c'est encore une question de moyens? Enfin, comment expliquer qu'on est en train de couper apparemment des centaines d'étudiants étrangers ont perdu leur visa ces dernières semaines déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas été renouvelés renouveler, des étudiants qui ont dû plier bagage du jour au lendemain. Et là encore, au sein du Parti républicain, est-ce que ça fait débat? Parce qu'on a très souvent dit, on fait venir des talents chez nous, ça contribue à ce soft power, et puis on montre à tout le monde qu'on s'est mieux formé qu'ailleurs.
Alors là, pour le coup, il y a un vrai débat. Et ça a été au moment où la nouvelle équipe a pris le relais au mois de janvier, ça a été la première tension entre Elon Musk et le président Trump. Musk qui connaît bien l'écosystème scientifique, vu du côté de la Silicon Valley et vu depuis le monde des startups, mais il connaît parfaitement ce monde-là et il sait très bien que aussi bien la Silicon Valley que les universités et les sciences dures ont besoin d'attirer les talents, ont besoin de post-docs, et donc il y a eu une demande assez forte qui a été faite par Musk pour dire laissez passer les talents, on en a encore besoin aux États-Unis et sans eux, on aura des laboratoires qui vont avoir des difficultés pour fonctionner. Donc sur ce point-là, il y a des tensions à l'intérieur du Parti républicain.
Tensions entre Elon Musk et notamment Marco Rubio, le secrétaire d'État américain.
Si vous venez dans ce pays en tant qu'étudiant, on attend de vous que vous étudiez, que vous obteniez un diplôme. Si vous venez ici pour vandaliser une bibliothèque, prendre le contrôle d'un campus, vous pouvez imaginer que nous allons nous débarrasser de vous et que nous allons continuer à le faire. Alors oui, nous identifions des fous comme ceux-là, nous leur retirons leur visa étudiant. Obtenir un visa étudiant ne va pas de soi. La presse laisse penser qu'il s'agirait d'une sorte de droit de naissance. Alors que non, un visa étudiant, c'est comme une invitation à venir dans ma maison. Si vous venez chez moi et que vous mettez plein de saloperies sur mon canapé, alors je vous mettrai à la porte.
Alors vous, Romain Huret, vous êtes très bien tenu quand vous avez bénéficié d'une bourse Fulbright pour étudier à l'Université de Virginia en l'an 2000. C'est la bourse Fulbright, c'est une de ces bourses, j'allais dire historiques, mais ce mot devient interdit, qui s'est mis en place en 1946. Le programme Fulbright, d'attribution de bourse à des étudiants étrangers qui viennent faire une année d'études sur un campus américain. Ce programme présenté à l'époque comme visant à asseoir durablement la paix en multipliant les échanges culturels. D'ailleurs, est-ce que ça, c'était un discours officiel qui cachait une volonté peut-être plus prosaïque d'aller chercher les talents ailleurs qu'aux États-Unis et de contribuer à construire des États-Unis forts.
Les États-Unis forts et surtout un monde non communiste. Le programme Fulbright avait pour objectif, après la Seconde Guerre mondiale, d'empêcher les élites européennes et les élites mondiales de basculer vers le communisme et de leur montrer que les États-Unis étaient le pays de la liberté, avec un grand L. Et donc, on a mis en place ce programme d'échange qui fonctionne encore aujourd'hui, qui est menacé par Donald Trump, mais qui fonctionne et qui permet à des étudiants talentueux de pouvoir partir une année sur un campus états-unien, avec une bourse qui leur est attribuée. L'anticommunisme dans les années jusqu'aux années 90, jusqu'à la chute du mur, et depuis cette date, et notamment depuis l'administration de Barack Obama, la commission Fulbright est très attentive à attirer des jeunes talents qui pourraient être attirés par l'islamisme radical. Et donc, il y a eu une translation en disant on peut attirer des jeunes des banlieues. C'était le programme de Barack Obama. L'administration Obama avait fait un lien entre les différents attentats en Europe et le 11 septembre 2001 en rappelant que beaucoup de ces jeunes venaient de banlieues européennes. Et donc, il fallait utiliser le soft power états-unien, le soft power universitaire pour les attirer. Il y a beaucoup il y a la commission Fulbright, mais il y a énormément de fondations qui font la même chose pour les attirer aux États-Unis et pour leur montrer que les États-Unis, contrairement à ce qu'ils pouvaient penser, n'étaient pas leur ennemi, que la France l'était peut-être davantage que les États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas de laïcité, il y a un multiculturalisme officiel, il y a une religion civique, et donc vous pouvez porter ce que vous voulez comme signe religieux, ostentatoire ou pas, ça n'est pas un problème aux États-Unis, et donc les États-Unis sont votre ami, et Obama et d'autres a poussé tout cet écosystème du soft power à aller en Europe, à aller dans d'autres pays pour faire venir ses talents, et pour leur rappeler à quel point les États-Unis pouvaient être précieux pour ces jeunes étudiants et étudiantes.
Car vous, Romain Huret, vous avez été membre du conseil d'administration de la commission qui attribue les bourses Fulbright de 2014 à 2018, donc sous Barack Obama. Quelle réflexion et quelle priorité préside au choix de privilégier tel ou tel étudiant? En tout cas, ce que vous dites de la lutte contre le djihadisme, par exemple, c'était formulé comme tel, c'était aller chercher plutôt des étudiants dont on pourrait penser que s'ils n'ont pas cette bourse, ils auront un autre destin plus funeste.
C'était pas formulé comme tel dans la commission Fulbright en France, mais c'était formulé comme tel par le département d'État. C'était un positionnement officiel de l'administration Obama qui s'est maintenu après hein, sur l'idée que il fallait utiliser ces leviers de soft power hein, pour faire ce qui avait réussi après tout pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la France ou l'Italie ou d'autres hein, ne basculent pas vers le communisme hein, et donc il faut utiliser les mêmes leviers pour attirer ces jeunes et leur montrer que les États-Unis sont respectueux de leurs croyances religieuses et peut-être beaucoup plus que d'autres pays européens finalement. Ce qui était important pour la Commission et ce qu'il est toujours, je pense, c'est d'attirer des jeunes qui sont issus de toute la diversité sociale et culturelle du pays. Il y avait le sentiment que ces bourses et ces recrutements par le talent et les diplômes sont finalement très très parisiens et recrutés essentiellement des étudiants des grandes écoles parisiennes hein, en sciences dures ou en sciences sociales. Donc il y avait une envie peut-être d'élargir hein, la représentativité et les collègues et c'est en ça que Trump est une rupture puisque à l'intérieur de la commission Fulbright il y a des représentants de l'ambassade, il y a des Américains à Paris hein, qui sont dans l'ambassade et eux-mêmes étaient très sensibles à cet argument de la diversité sociale, la diversité culturelle, la diversité ethnique au moment des recrutements pour faire en sorte que les Français et les Françaises qui partent aux États-Unis soient finalement très représentatifs de la diversité de la société états-unienne. Donc là, Trump, ça va être une double rupture puisque à la fois, il pourrait, hein, et si les élus du Congrès le décident, le programme Fulbright pourrait être menacé dans les années à venir. Et dans le même temps, on sent bien qu'il n'a pas du tout envie de maintenir le fait que le soft power fasse venir aux États-Unis la diversité du monde hein, dans ce pays et en fasse un creuset de formation des élites du monde.
Mais surtout, il a l'air de s'en moquer pas mal du soft power par les universités, Donald Trump, puisque quand Harvard met en avant ses 161 lauréats du prix Nobel, ses 48 prix Pulitzer, ses 8 anciens présidents, Donald Trump dit qu'il s'en contrefiche et dit qu'Harvard ne devrait de toute façon figurer sur aucune liste des grandes universités de ce monde. C'est quoi ? C'est une remise en cause de toute la façon dont les universités américaines ont été presque pensées depuis l'origine, parce qu'il y a une forme de stratégie aussi tout au long du XXe siècle, attirer les étudiants, priver les pays communistes de leurs ressources intellectuelles, ça on l'a bien entendu, ça c'était le côté guerre froide, mais aussi servir des intérêts scientifiques, économiques, au service, encore une fois, le mot anglais est toujours un peu désagréable aux oreilles des auditeurs, mais ce soft power états-unien, là, il a l'air de ne pas du tout en tenir compte.
Alors, il en tient compte, mais autrement, et c'est peut-être en cela que ce que nous vivons là est une rupture pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Trump a compris, ou je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, il l'a compris, que les universités sont perdent de leur pouvoir au fil des décennies, hein, et qu'au 21e siècle, on assiste peut-être à une translation de la construction des savoirs des universités privées ou publiques aux États-Unis vers des entreprises privées. Je pense notamment à celles de la Silicon Valley, qui sont très puissantes et qui sont devenues aujourd'hui des lieux de production de savoir exceptionnels, hein, avec des financements qui dépassent de très loin ceux des universités publiques et privées aux États-Unis. Et je parlerai même pas de l'Europe et de la France, mais dans le domaine de la conquête spatiale, des algorithmes, de l'IA, de la médecine, on a aujourd'hui des entreprises privées qui sont capables de mettre sur la table des millions, voire des milliards de dollars. Et ces entreprises sont très puissantes, à la fois pour produire des savoirs, pour construire ensuite ces savoirs et les transcrire de manière industrielle, hein, et assurer aussi le soft power des États-Unis dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, Harvard a plus de pouvoir que Meta ou Twitter ou d'autres ? Je pense que la question mérite d'être posée. En tout cas, Trump lui a donné une réponse. Il est persuadé que Twitter a beaucoup plus de pouvoir qu'Harvard et qu'il vaut mieux de toute façon donner tous les pouvoirs à Twitter et aux gens de la Silicon Valley plutôt que de s'acharner à défendre des universités qui sont si 20e siècle ou qui sont peut-être des reliques du passé. C'est un constat sombre, surtout pour le président d'un établissement que je suis. Je n'y crois pas. Je pense qu'on a besoin de construire ces savoirs critiques. On a besoin aussi de construire des savoirs qui sont désintéressés. Et c'est là où peut-être il se trompe fondamentalement. Il se trompe aussi dans sa politique de financement des savoirs et de la recherche. On a besoin de financement de recherche fondamentale. Et l'État fédéral
faisait... La recherche fondamentale, c'est la recherche à risque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de trouver quelque chose.
On n'est pas sûr de trouver. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait construire l'arme nucléaire. Personne ne savait comment faire. l'État fédéral a essayé de mettre des millions de dollars pour faire travailler des militaires, des scientifiques ensemble pour, en quelques années, aller plus vite que l'Allemagne et construire l'arme nucléaire.
C'est même si celle-ci, on aurait pu s'en passer
c'est
tous.
Le projet, on aurait peut-être pu s'en passer, mais c'est le projet Manhattan qui a inspiré ensuite beaucoup de monde. C'est-à-dire, on a besoin, c'est un projet à risque. Il n'y a que l'État qui peut mettre autant d'argent pour construire un projet qui pourra peut-être échouer. Et c'est sans doute en cela que Donald Trump se trompe, je crois, aujourd'hui.
Votre éducation vous fortifie, mais elle fortifie aussi notre nation dans son ensemble. De plus en plus, la supériorité économique de l'Amérique, notre capacité à surpasser les autres pays, nous ne la fabriquerons pas au sein de nos conseils d'administration ni dans nos usines, mais dans nos salles de classe et nos écoles, dans des universités comme celle de Hampton. Elle dépendra de comment nous tous, et les parents en particulier, nous éduquerons nos fils et nos filles. Ce qui est en jeu, au-delà de notre capacité à surpasser les autres nations, c'est notre capacité à faire fonctionner la démocratie dans notre propre pays.
Barack Obama, lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université de Hampton, où il a lui-même étudié. Romain Huret, une de vos collègues, la sociologue Isabelle Ferreras, dit qu'aujourd'hui Harvard est une métonymie. Si elle flanche, ça veut dire que la démocratie américaine est perdue.
Je pense qu'elle a entièrement raison. C'est pour ça que le combat que l'université mène est essentiel. Elle doit rappeler la place du savoir, la place de la liberté d'expression, la place de la liberté académique. Elle en a les moyens, elle peut tenir dans ce bras de fer. Et si le président a décidé de le faire, c'est qu'il est soutenu par son conseil d'administration. Il est soutenu par les trustees aussi, qui sont...
Le président de Harvard.
Le président d'Harvard, pardon. Oui, il est soutenu par les trustees de l'université aussi, donc qui savent très bien ce que les donateurs pensent. Donc là, il y a beaucoup de gens qui croient qu'un des lieux peut-être est un lieu surprenant, parce que c'est peut-être pas le lieu qu'on aurait imaginé avant. Le lieu du combat avec Donald Trump, ça va être ce beau campus de Cambridge dans le Massachusetts.
Les coupes claires dans les universités américaines ou un nouveau coup dans ce qui était un vecteur du soft power américain. C'est le deuxième épisode de notre série sur la fin d'un rêve américain, même si on a bien entendu que tout ça allait au-delà des considérations de soft power et de puissance. Vous restez avec nous, Romain Huret. On parlera en focus des étudiants chinois aux États-Unis, au cœur des batailles sino-américaines cette fois. Emmanuel Véron va s'installer dans notre studio. En attendant, on écoute l'extrait d'un morceau qui passe presque systématiquement depuis quelques mois dans les cérémonies de remise de diplôme aux États-Unis. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Il était temps. About Damn Time, c'est la chanson de Lizzo. C'est pas moi qui dis, il était temps de reprendre le micro. Cette chanson date de 2022 et ce titre est dans une playlist du magazine Billboard des meilleures chansons de remise de diplôme aux États-Unis en 2024. Des cérémonies qui pourraient bien voir de moins en moins d'étudiants chinois. C'est notre focus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
There's 300,000 currently Il y a actuellement 300 000 ressortissants chinois en possession d'un visa aux États-Unis, ce qui est un nombre considérable. Il y a donc des raisons de s'inquiéter. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'espionnage dans nos universités, nos instituts de recherche, par des ressortissants chinois en possession d'un visa étudiant. Et je pense qu'il faut absolument mettre un terme à cette situation parce qu'elle met en danger notre sécurité nationale aux États-Unis.
Riley Moore, député républicain de Virginie-Occidentale qui défend le Stop CCP Visa Act, stop les visas au Parti communiste chinois. Ce projet de loi déposé le 14 mars par les représentants de son parti vise à interdire, non pas réduire, mais interdire les visas accordés aux étudiants chinois. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour Julie Grand.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'INALCO et membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. D'abord, à l'appui de la démonstration de Riley Moore et du projet de loi des Républicains, est-ce qu'il y a beaucoup de cas avérés qui font comme ça régulièrement les gros titres de la presse américaine ?
Absolument, c'est presque mensuel. Et finalement, si on regarde la période des 20 dernières années, les chiffres sont assez éloquents. Le nombre d'étudiants chinois formés sur les campus américains, Ivy League ou des universités qui sont peut-être moins en vue, mais l'ensemble de ces étudiants-là sur les 20 dernières années, c'est plus de 2 millions de personnes. Donc finalement, sur les 20 dernières années, la puissance américaine a largement participé à former les élites chinoises qui sont pour beaucoup retournées en Chine après des itinéraires parfois variés, sinueux, en travaillant d'abord aux États-Unis, puis en rejoignant des compagnies ou des sociétés ou le gouvernement chinois ou ailleurs en Europe. Mais dans les faits, sur le temps long, en fait, la machine américaine, la puissance américaine a formé la puissance chinoise et a largement contribué à former la puissance chinoise. Et quand on regarde, j'évoquais mensuellement, les sujets d'espionnage au stricto sensu, si je puis dire, dont se fait écho le FBI ou d'autres administrations régaliennes américaines, eh bien oui, on a parfois des survols de drones, de sites navals, on a de l'espionnage directement en direction de professeurs, on a plusieurs étudiants qui peuvent être pris la main dans le pot de confiture à travers différents process industriels qui auront une application militaire.
Mais alors tous, évidemment, ne sont pas aux États-Unis ces étudiants chinois pour les espionner. Donc certes, il y a des exemples. Et puis une commission du Congrès a demandé en mars à 6 universités de lui fournir des informations sur les étudiants chinois inscrits chez elles, notamment Stanford, Maryland ou les universités du Maryland, de Californie du Sud ou d'autres. Néanmoins, on sait, et on l'avait raconté dans une série de Culture Monde sur les diasporas chinoises, qu'aujourd'hui, la Chine, en contrepartie des bourses qu'elle donne aux étudiants chinois, demande d'adhérer au Parti communiste, de rendre des rapports sur leurs études, ce qui ne veut pas dire que tous vont en Chine pour rapporter des informations.
Absolument. Mais effectivement, le visage finalement de la démographie des étudiants chinois qui continuent de chercher à entrer sur le territoire américain parce que la concurrence en Chine est extrêmement forte et que dans les choix en fonction de la manne financière accumulée au sein des familles, vise les États-Unis parce que le sujet étant prioritaire pour la qualité de la formation, pour la qualité des labels universitaires américains. Donc les États-Unis restent, si je puis dire, la cible prioritaire pour la population chinoise. À l'intérieur de cela, le Parti communiste chinois a repris, si je puis dire, du contrôle dans ces flux qui ne sont en fait des flots. J'évoquais plus de 2 millions de Chinois sur les 20 dernières années. C'est en termes démographiques, considérable. Et donc, le Parti communiste chinois, sous la houlette de Xi Jinping depuis 2012, a repris, dans une certaine mesure, le contrôle de ce qui était auparavant peut-être plus disparate ou en tout cas moins structurant, c'est-à-dire prendre le contrôle des opinions, prendre le contrôle du comportement des étudiants chinois distribués, diffusés sur le territoire américain à travers ces différentes universités et quelque part avoir le contrôle du message, si je puis dire, politique. C'est d'abord et avant tout pour le Parti communiste chinois une volonté de contrôle et de sécurité politique, l'obsession du contrôle de la diaspora et qui peut, à rebours, être utilisée comme étant des relais d'influence ou parfois pour des affaires d'espionnage absolument complètement orthogonal, stricto sensu, etc. Mais dans les faits, il y a un levier démographique pour le Parti communiste chinois en ciblant, en appuyant, en exerçant un levier sur les diasporas étudiantes.
Et aussi parce que les filières universitaires en Chine sont pour la plupart saturées, donc il faut bien envoyer les étudiants quelque part, alors pourquoi pas là où ils iront se former à l'excellence.
La concurrence en Chine étant extrêmement forte, après un passage compliqué, difficile du Gaokao, l'équivalent du baccalauréat chinois, qui est est extrêmement concurrentielle. Effectivement, pour se dégager de cette masse concurrentielle, le fait d'obtenir quelque part un label, un passage dans une université étrangère, est une plus-value particulièrement intéressante. Et on le disait, les États-Unis là-dedans figurent encore en bonne place. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet, on parlait de la démographie et de cet ensemble démographique, n'est en fait pour le Parti communiste chinois quelque chose qui n'est pas si récent que cela. J'évoquais la présidence de Xi Jinping, mais dans le temps long, c'est pour ça que je parlais des 20 dernières années, dans le temps long, il y a probablement une stratégie sur laquelle on commence à avoir du recul, qui est celle d'utiliser finalement les meilleurs campus internationaux pour former, si je puis dire, les ingénieurs de demain, les financiers de demain, les banquiers de demain, etc. etc.
D'où le fait que la Chine favorise les bourses à destination des étudiants en sciences dures pour être compétitive à terme dans l'industrie et l'innovation, même si tout ça est plein de paradoxes, puisque nos invités nous expliquaient dans l'émission que je citais tout à l'heure que aujourd'hui de plus en plus d'étudiants chinois font des séjours très très courts à l'étranger parce qu'ils savent que s'ils rentrent en Chine et qu'ils veulent postuler dans l'administration, par exemple, un diplôme d'une université états-unienne ou occidentale leur serait plutôt contre-productif parce qu'on aurait peur qu'ils soient formés à une sorte de corruption des esprits.
Il y a toujours le doute. Ouais. Et dans un régime paranoïaque, puisque c'est l'essence même du régime chinois, la paranoïa qui entretient cette paranoïa, il y a le doute et d'où l'obsession du contrôle de Chinois projetés de cette diaspora, l'obsession de ce contrôle pour essayer de réduire la surface potentielle de paranoïa. Donc effectivement, les étudiants chinois adaptent par rapport à cela, surtout que depuis la fin de la pandémie de Covid, il y a un très fort taux d'embauche en Chine dans l'administration publique, quelque part pour pallier les difficultés économiques internes et donc la réduction de la sphère privée. On a un encouragement très 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 significatif à rejoindre des administrations chinoises et bien évidemment là-dedans des administrations régaliennes.
Alors les États-Unis se sont inquiétés ces derniers temps de cas d'espionnage avérés ou soupçonnés. Le président de la commission du Congrès qui alerte sur cette question par exemple écrit que les universités américaines servent involontairement d'incubateur aux avancées technologiques et militaires de la Chine. Est-ce que néanmoins les États-Unis n'ont pas besoin des étudiants chinois qui, comme tous les étudiants étrangers, payent très cher en fait leurs frais de scolarité ?
C'est l'un des grands paradoxes et c'est d'ailleurs similaire sur les campus britanniques, peut-être dans une certaine mesure sur d'autres campus d'Europe occidentale. Mais en tout cas, pour les campus américains, c'est l'un des facteurs essentiels. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, et ça a été évoqué dans l'interview que vous diffusez tout à l'heure, avant le Covid, on était à peu près à 360 000 étudiants chinois sur le territoire américain. Aujourd'hui, 2023-2024, on est autour de 277 000 étudiants. Donc on voit bien que l'effet Covid et la marche du monde de la rivalité sino-américaine fait son œuvre et qu'on a une réduction de cela. Financièrement parlant, c'est donc colossal. Ce qui est intéressant, c'est de voir la volumétrie qui est peut-être compensée avec l'Inde. Et donc on a là probablement un jeu très politique, à la fois intérieur américain, mais aussi de sa diplomatie, de ses logiques indo-pacifiques, de sa politique étrangère, à essayer, par des vases communicants, de compenser cette réduction de la surface financière naguère chinoise par une provenance internationale plutôt indienne ou d'autres États dans le monde avec une volumétrie démographique qui permettrait, comme je le disais, de le compenser.
Les frais de scolarité internationaux sont importants pour les étudiants étrangers qui viennent étudier aux États-Unis, 42 000 dollars auxquels s'ajoutent les 14 000 dollars de logement et de nourriture. Est-ce qu'il y a aussi, toujours dans l'idée de ramener ces sujets à la question du soft power, mais est-ce qu'il y a eu dans la stratégie américaine, et je poserai aussi la question à Romain Huret, une volonté de dire qu'on va convertir des étudiants aux valeurs libérales états-uniennes, ces étudiants chinois, est-ce qu'ils sont particulièrement pris en charge, entre guillemets, sur cet aspect-là, les professeurs plus vigilants, ou est-ce qu'il y a une idée de convertir des...
Ça a été indéniablement l'une des motivations sur les 20 ou 30 dernières années. C'est-à-dire que former les élites de demain aurait nécessairement une coloration américaine. Donc une coloration de démocratie, une coloration de ce soft power américain, du sens de la liberté, du sens de l'auto-entrepreneuriat, du sens de se réaliser. La marche du monde montre qu'aujourd'hui, et c'est pour cela que c'est un vrai sujet de politique intérieure aux États-Unis, qu'il y a un effet très contradictoire. Et c'est bien pour cela que j'évoquais au début de mon intervention que sur les 20 dernières années, les États-Unis ont très largement participer à former la puissance industrielle, technologique et d'innovation chinoise aujourd'hui, alors même que c'est son premier rival systémique.
Il paraît qu'il y a des enseignants d'université américaine qui ont commencé parfois sur des images à la télévision à voir sur l'équipement militaire chinois, le développement des programmes, tout ce qu'ils avaient pu peut-être eux-mêmes enseigner. Romain Huret, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'ai cru que vous leviez la main, mais j'ai des questions à vous poser peut-être pour réagir. Mais d'abord, un petit mot Emmanuel Véron, pour savoir si c'est ces affaires d'espionnage ont eu des effets sur la distribution de visas par les autorités américaines, sur le nombre de visas qu'elles consentent à délivrer. En 2020, déjà pendant son premier mandat, Donald Trump avait fait annuler l'octroi de visas pour plus de 1000 étudiants chinois accusés de vol de données ou de vol de propriété intellectuelle. Est-ce que c'est un levier qu'il continue à activer ?
Complètement, absolument. Oui. Sur la base, indépendamment de si je puis dire, de la forme de la politique Trump et de son verbe tonitruant, sur la base de faits très factuels d'administrations comme le FBI, avant même les nouvelles nominations depuis janvier, sur la base d'autres administrations régaliennes américaines, où la priorité a été justement le suivi des activités chinoises sur le territoire américain, et notamment à travers les étudiants. Et quand on regarde très brièvement ces affaires d'espionnage ou de contre-espionnage, je parlais d'affaires mensuelles en lisant la presse américaine ou les déclarations du FBI, ce qui est intéressant de voir, c'est des enquêtes sur des domaines dans l'énergie, nucléaire, solaire ou éolien, ou d'autres formes d'énergie, des sujets de secrets industriels ou en tout cas de process industriels qui ont des applications dans le spatial, des sujets qui ont lieu sur la 5G, demain la 6G, la robotique, l'intelligence artificielle. Bref, et je fais très court, bref, en fait, toute la surface des technologies de rupture qui comptent dans la concurrence des puissances.
Romain Huret, peut-être un petit mot encore une fois. S'il y a de l'espionnage chinois aux États-Unis, tous les étudiants chinois n'en sont pas aujourd'hui les fervents soldats. Est-ce que ce projet de loi républicain présenté en mars à la Chambre des représentants pour interdire à tous les étudiants chinois d'étudier aux États-Unis peut passer? Est-ce que c'est un débat qui fait discuter aux États-Unis? Est-ce que vous en entendez vos confrères en parler, vos confrères d'université?
Oh, je pense que mes confrères sont atterrés. Pour eux. Ils ont aussi en tête l'idée que les campus sont des havres de paix. Alors il y a peut-être de l'espionnage, il y a sans doute, ils sont pas naïfs non plus, mais là il y a quand même une atteinte très forte qui est faite à la liberté académique. C'est aux universités de choisir qui elles ont envie d'attirer. Les universités sont privées aux États-Unis, donc il y a pas, on a que l'État se mêle à ce point-là des politiques de chaque université. Et casse, hein, moi, c'est ce qui me frappe dans la discussion qu'on a depuis une heure. Hein, les campus aux États-Unis sont des paradis sur terre. Et ils ont été construits aussi comme ça. Et le soft power universitaire repose sur l'idée que vous envoyez vos enfants au paradis. C'est-à-dire qu'on a beaucoup en Chine ou ailleurs des membres de l'élite qui vont se priver pour que leurs enfants puissent aller sur place, puissent aller à Princeton, puissent aller à Yale ou à Harvard. Là, on est en train de casser cette image-là, puisque le monde entre très brutalement dans des lieux qui étaient hors du monde, qui étaient hors du temps, pour permettre la recherche, pour permettre aussi aux étudiants de s'amuser, de travailler. Là, on est loin du morceau que vous avez fait passer, ou de Spring Break, hein. On est revenu dans la diplomatie, la réelle politique la plus brutale.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Romain Huret, historien des États-Unis, vous êtes président de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans ce studio, ainsi que vous, Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine contemporaine. Vous êtes chercheur associé à l'INALCO. Merci à vous deux. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Revue de presse internationale que vous nous présentez, Mathilde Ansker, cette semaine, et vous nous parlez ce matin d'une mauvaise route et d'une lettre.
Oui, parce que ces deux éléments ont suffi à faire venir le pape François jusqu'à une église de Kangemi, à côté de Nairobi, au Kenya. C'est une histoire que nous raconte le quotidien The Standard. Nous sommes en 2015, quand Peter Magou apprend que le pape doit se rendre dans son pays. Il écrit alors au Vatican pour demander une visite dans sa paroisse. Quelque temps plus tard, le planning du pape paraît. L'église de Kangemi n'y est pas, mais un changement de programme a finalement lieu à la dernière minute. Le pape devait visiter une autre église, peu accessible, une route était en construction pour y aller. Le Vatican décide donc de changer ses plans, reprend la lettre de Peter Magou et décide d'aller donc à Kangemi. Une fois la décision prise, le gouvernement raccorde l'église à l'électricité, goudronne le chemin qui y mène depuis l'autoroute. Une femme raconte être venue à 3h du matin pour garder sa place ce jour-là. Le pape devait y passer 45 minutes, il est finalement resté 2h.
Un journal argentin nous raconte des coups de téléphone.
Dans un article de La Nación intitulé « Soy Francisco y no es broma »,« Je suis François et ce n'est pas une blague ». Une phrase que le pape avait visiblement l'habitude de dire quand il appelait au téléphone parce que, oui, François passait des coups de fil. Notamment à son ancien marchand de journaux, La Nación l'a retrouvé 4 ans après avoir été élu pape. François a appelé ce commerce de Buenos Aires. « C'est le cardinal Georges », dit-il au téléphone. Son interlocuteur croit à une blague. Le pape insiste « C'est du sérieux, je suis Georges Bergoglio et je t'appelle de Rome ». Il voulait simplement suspendre son abonnement, mais visiblement, c'était une habitude pour lui de téléphoner, puisque l'article cite ensuite une chronique parue dans le Corriere della Sera. C'est un journal italien. Quelques mois après l'élection de François, cette chronique est intitulée « Que faire si le pape vous appelle ?».
Et on apprend aussi, Mathilde, que François était ceinture noire de taekwondo.
Une ceinture noire honorifique, et ça c'est le Korea Times qui nous le raconte. L'article commence par cette phrase, elle est intrigante, donc je vous la lis en entier. Le pape François, porte-parole des pauvres et ceinture noire honoraire de taekwondo en reconnaissance de son engagement humanitaire partagé avec le sport traditionnel coréen, est décédé lundi à l'âge de 88 ans. On découvre donc dans cet article que le pape était intéressé par la mission de la Fondation humanitaire du taekwondo. Basée en Suisse, elle apprend cet art martial aux réfugiés du monde entier pour leur redonner confiance en eux. Une démonstration de taekwondo a même eu lieu place Saint-Pierre à Rome, devant le pape. Et au-delà de cette affaire sportive, le Korea Times consacre ce matin plusieurs articles à la mort de François, ce qui n'est pas si étonnant puisque 11% des Sud-Coréens sont catholiques, d'après le Vatican. On lit dans le Korea Times l'engagement du pape pour la paix entre les deux Corées. La Corée du Sud a d'ailleurs été la première destination en Asie du pape. Et un article se concentre sur l'hommage du cardinal de Séoul qui rappelle la cérémonie de béatification pour les martyrs de l'église de Corée en 2014, la première de ce genre tenue hors de Rome, mais aussi l'attention portée par le pape aux plus vulnérables.
Et c'est justement sur ce point que vous revenez, Mathilde, dans votre revue de presse.
Oui, l'article nous parle de la première visite officielle du pape à Lampedusa et finalement cette idée d'un pape simple, engagé pour les plus pauvres transparaît dans plusieurs articles ce matin. Rien que dans cette introduction, c'est le début d'une vidéo de RTVE, la télévision publique espagnole, qui revient sur le pontificat de François. Sa première apparition face au monde était déjà une déclaration d'intention, tout en blanc et portant seulement une croix en argent autour du cou. « J'aimerais une église pauvre et pour les pauvres », dit ensuite le pape François dans un extrait. Son premier voyage officiel était Lampedusa, symbole de ceux qui ont perdu la vie en cherchant un futur. Voilà donc pour la télévision espagnole. Et de son côté, le journal kényan The Standard, encore lui, publie un article intitulé « Un berger qui marchait avec les pauvres jusque dans la mort », saluant ainsi la volonté du pape de rompre avec la tradition et de simplifier son enterrement. Enfin, de très nombreux journaux posent la question de la suite ce matin. Qui pour lui succéder ? Le quotidien nigérian The Nation publie un article sur 2 cardinaux africains, tous les deux des prétendants sérieux selon le journal. Et quand on lit leur portrait, eh bien, l'un et l'autre sont radicalement opposés. Le premier est présenté comme étant au cœur des discussions du Vatican sur la justice sociale, le changement climatique et les droits humains. Le second est décrit comme un défenseur invétéré de la liturgie et de la doctrine, très opposé au mariage homosexuel et à l'avortement. Au total, 135 cardinaux vont se réunir pour choisir le nouveau pape. L'Église est aujourd'hui à la croisée des chemins, écrit le journal.
Merci beaucoup Mathilde Ansker. Demain dans Culture Monde, ce sera notre troisième épisode sur cette série sur le soft power états-unien. Puissance douce états-unienne, je traduis, façon Donald Trump. Quelle stratégie, quelle idéologie derrière ces attaques contre ce qui était censé faire l'attractivité des États-Unis. Demain, nous parlerons du cinéma Make Hollywood Great Again.